Bonjour, bonjour, bienvenue dans Libre Débat sur Radio Galère 88.4. Alors on est ensemble jusqu'à 18h. Aujourd'hui, on va parler, comme souvent, de lutte sociale actuelle et passée, ici et ailleurs. Dans la première partie de l'émission, j'accueille Leïla, qui est venue tout spécialement pour partager des infos précieuses sur ce qui se passe en ce moment en Iran. Et dans la deuxième partie de l'émission, on écoutera un enregistrement de Pierre Audin, un sociologue qui revient 10 ans après sur le grand mouvement de grève générale contre la vie chère en Guadeloupe et en Martinique. Alors, on va commencer avec notre invitée spéciale, Leïla. Est-ce que tu peux un peu te présenter, expliquer pourquoi en fait tu avais envie de venir à Radio Galère parler de ce qui se passe en Iran ?
Je vais me présenter rapidement. D'abord pour dire que je ne suis pas iranienne et que je n'ai jamais mis les pieds en Iran. Ça fait depuis 2013 que je fais pas mal de projets avec des Kurdes iraniens qui vivent en exil à cause de raisons politiques. Et du coup, à cause des projets qu'on a fait ensemble et de ce qu'on a partagé, j'en suis venue à m'intéresser à ce qui se passe politiquement en Iran et à essayer de suivre et de voir ce qu'on pouvait faire pour soutenir. Et du coup, voilà, j'ai un point de vue qui est un petit peu spécial, qui est celui d'une personne dont j'ai jamais mis les pieds dans le pays. Je parle pas farsi, je parle kurde, mais je le lis mal. Mais voilà, à force de partager les choses, je sais aussi que c'est important pour les amis que les choses elles soient dites, qu'elles puissent être diffusées, que ça arrête d'être invisible. Et voilà, j'ai pas préparé cette émission toute seule, on a été plusieurs, dont des personnes qui parlent farsi et qui ont déjà été en Iran. Et on a essayé un peu de demander autour de nous, aux amis, de voir quelle était la vie des gens et l'analyse des gens sur les événements de la semaine passée. Peut-être on peut commencer par écouter un son pour se rendre compte de ce qui se passe. Là, on entend en fait des sons de manifestation de la semaine dernière. On vient d'entendre un slogan qui dit « mort au dictateur ». Et donc c'est un montage de sons avec des sons de manif dans différentes villes à travers le pays. Là, on a un nouveau slogan qui dit « n'ayez pas peur, nous sommes tous ensemble ». Là, on est dans la ville de Marwan, au nord-ouest, au Kurdistan, et on entend la police qui tire à balles réelles sur les manifestants. Et là, on est dans une autre ville et on entend les manifestants qui insultent la police.
Ok, bon là, on se... Voilà, merci de cette petite bande-son qui permet quand même de se rendre compte un peu de la force et de l'ampleur de ce mouvement. Est-ce que pour les auditrices, auditeurs, tu peux on va peut-être commencer par poser le contexte.
Donc pour commencer, en fait, vendredi 11 novembre, vendredi dernier, l'État iranien a fait une annonce qu'il allait multiplier par 3 le prix d'essence à la pompe. Il faut savoir que le prix de l'essence à la base, il est assez bas parce qu'il dépend de... il est subventionné. Mais du coup, par 3, c'est quand même une très haute hausse. Et quelques heures plus tard, il y a des manifestations spontanées qui sont arrivées dans énormément, énormément de villes à travers tout le pays et qui sont enchaînées les jours suivants. Assez rapidement, on a pu voir que les slogans, ils n'étaient pas uniquement adressés sur la hausse du pétrole, ça adressait l'économie en général, le chômage, la corruption, et comme ce qu'on a pu entendre dans les slogans, la chute du régime, la mort au dictateur, ce genre de slogans. Et les manifestations ont duré plusieurs jours, il y a eu des stations essence, des banques, des postes de police... des bureaux de représentants du guide suprême, des bureaux des Basiji qui sont une milice dont on pourra parler plus tard, qui ont été incendiés, qui ont été brûlés par les manifestants. Et ce qui est important, c'est que le régime a tout de suite mis une répression extrêmement brutale et qui a été brutale tant dans son ampleur que dans sa rapidité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le temps qu'il y ait un mouvement social qui s'installe, qu'il y ait des manifestations, puis une réponse qui se fasse petit à petit. C'est-à-dire tout de suite, dès le premier jour, il y a eu une répression extrêmement brutale. Internet a été coupé le lendemain, dès le samedi, complètement dans tout le pays. C'est-à-dire que c'est pas comme ce qui avait déjà pu arriver en Iran où il va avoir un contrôle sur des sites comme Twitter, comme Instagram, comme Facebook, où l'accès va être réduit. C'est Internet qui a juste été supprimé complètement dans le pays. Et il n'a été rétabli que 5 jours plus tard. Donc ça a vraiment duré plusieurs jours où il n'y avait plus de possibilité de contacter les gens par Internet, de faire sortir les infos. Les forces armées sont tout de suite intervenues. Donc les forces armées en Iran, c'est un petit peu compliqué, mais ça implique l'armée régulière et d'autres forces anti-émeutes qui dépendent d'un corps qui s'appelle SEPA. Et il y a tout de suite eu des tanks, des blindés postés dans les rues. Les forces anti-émeutes ont tiré à balles réelles sur les manifestants. Il y a des snipers qui ont été passés sur les toits des immeubles. Il y en a même qui ont parlé de snipers dans un hélicoptère. Et il y a Amnesty International qui a sorti un rapport il y a quelques jours où ils font état, du coup, pendant ces 5 jours, de 140 morts, de plus de 400 blessés et de milliers d'arrestations. Du coup, ça, c'est les chiffres que Amnesty International peut attester avec des noms et tout ça. Et du coup, il faut savoir qu'a priori, les chiffres sont beaucoup plus hauts que ça. Et il y a eu des témoignages, par exemple, de gens qui refusaient d'aller à l'hôpital par peur des arrestations. Et il y a eu, voilà, le nombre d'arrestations est immense. Les gens se sont fait arrêter pendant les manifestations, mais aussi chez eux, où les forces allaient rentrer pendant la nuit pour les arrêter. Et ça a été souligné que le nombre d'arrestations, de blessés et de morts était beaucoup plus haut dans les régions kurdes, du coup au nord-ouest, et dans les régions arabes au sud-ouest. Et notamment parce qu'en fait, c'est des régions qui sont connues de l'État pour être très enclines aux mobilisations politiques, dans lesquelles il y a régulièrement des manifestations, et du coup, dans lesquelles on pouvait s'attendre à une forte mobilisation, et que le but de l'État dans tout l'Iran, et plus spécifiquement dans ces régions, ça a été de faire taire au plus vite, d'empêcher qu'il y ait quoi que ce soit, qui réagir le plus fort possible pour empêcher qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse arriver. Même après ces 5 jours, l'État a refusé de rendre les corps aux familles, où c'était difficile d'avoir des nouvelles. Il y a quelques jours, ils ont annoncé qu'ils demandaient une caution pour la libération des personnes arrêtées, qui est une pratique qui se fait en Iran, et ils ont annoncé que cette caution servait à rembourser les dégâts produits par les manifestants. Et pour avoir une échelle, la caution qui est demandée, elle est de 30 millions de tomans. Du coup, ça équivaut à peu près à 3000 euros. Et si on veut avoir une idée, le salaire moyen, du coup, qui est vraiment pas le salaire minimum en Iran, il est 300 euros. Et du coup, c'est 10 mois de salaire d'un salaire moyen. Du coup, il y a la plupart des gens qui sont allés dans la rue, c'est des gens qui sont de classe sociale populaire et du coup, qui n'ont même pas ce niveau-là de vie. Et du coup, ça représente des mois et des mois de salaire pour payer une caution de libération pour la famille.
Et du coup, cette mobilisation, y a des précédents. Est-ce que ça s'inscrit dans déjà un contexte un peu de mobilisation ou c'est arrivé d'un coup ?
Alors là, dans l'ampleur que ça a pris, dans le fait que ça soit arrivé dans autant de villes en même temps et aussi fort, c'est assez exceptionnel. Par contre, ça s'inscrit dans un contexte global plus ancien et notamment, il y a eu des grandes manifestations il y a 2 ans, en décembre 2017, janvier 2018, qui ressemblent beaucoup à ce qui s'est passé la semaine dernière, tant dans les personnes qui étaient mobilisées que dans les revendications. Simplement, ce mouvement-là aussi a été très réprimé, mais pas aussi vite et pas aussi fort que ce qui s'est passé là. Et après, dans tout le pays, ça, depuis plusieurs années, on voit même si c'est pas général, il va se passer un événement dans une ville, un événement dans une région, et il va avoir des espèces de mouvements sporadiques sur des choses plus locales qui vont arriver, puis s'éteindre, puis arriver, puis s'éteindre. Il y a une espèce de tension quand même assez permanente.
Et ça prend quelle forme ? Un peu ces mobilisations ? Plutôt des manifestations plutôt...
Ça va être des manifestations, ça va être des grèves, ça va être... Par exemple, là, il y a un ami qui me parlait, il y a 2 mois, il y a eu un scandale dans la région d'Isfahan, où il y a eu des scandales de corruption dans des hôpitaux, qui fait que des poches de sang avec le VIH ont été distribuées, que plus de 200 personnes ont été infectées. Et du coup, les gens ont cramé des commissariats en réponse. Mais ça peut prendre aussi des blocages, le fait qu'il y a des villes entières où les magasins vont fermer, ou des blocages de route. Ça, chaque mobilisation, j'ai l'impression, a un peu sa particularité. Et je dirais, dans les analyses ou quand les gens en ont parlé, il y a eu beaucoup la comparaison avec les mouvements de 2009 qui ont été faits. En 2009, il y a eu des fraudes massives électorales et le président qui était en place, qui s'appelle Ahmadinejad, a été réélu contre le candidat réformateur qui s'appelle Moussaoui. Et à ce moment-là, il y a eu aussi un très grand mouvement de manifestation qui a aussi été extrêmement réprimé. Mais en 2009... on était sur des revendications politiques de gens qui demandaient juste, enfin, qui supportaient leur candidat et qui se battaient contre des fraudes électorales et surtout une base de mobilisation de gens plutôt des citadins, plutôt des perses, plutôt des classes moyennes et supérieures, plutôt des intellectuels. Alors que là, ce qui marque ce mouvement, c'est plutôt c'est des classes populaires, c'est plutôt les populations marginalisées. Et il y a une assez grande rupture entre ces deux classes de population et comment sont perçues à l'intérieur du pays les mobilisations. Et par exemple, là, les personnes qui sont sorties dans la rue en 2009 ne sont pas vraiment sorties concernées, ne sont pas vraiment sorties ou ne vont pas forcément supporter ce qui se passe.
Et est-ce que tu peux, parce que bon... Moi, je ne connais pas, puis je pense que pas mal d'auditeurs, auditrices ne connaissent pas forcément plus le contexte politique actuel en Iran. Ça en est où ?
Alors, le contexte politique actuel en Iran, c'est surtout... Enfin, je pense une chose qui est très importante, c'est un contexte économique. C'est-à-dire que la situation économique en ce moment en Iran, elle est catastrophique. Que les gens se sentent paupérisés et qu'il y a tout un ensemble de choses qui jouent là-dedans. Il y a la gestion de l'État lui-même, de l'économie. Il y a les sanctions américaines et qu'est-ce que l'État a choisi de faire face aux sanctions américaines. Il y a les pressions...
Tu peux rappeler, excuse-moi, les sanctions américaines ?
Alors, les sanctions américaines, c'est lié à plein de choses, mais récemment, c'est surtout lié aux accords sur le nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a eu des accords... entre l'Iran, les États-Unis et d'autres pays, sur le fait que l'Amérique allait arrêter d'essayer de bloquer l'économie iranienne et de bloquer le commerce extérieur en échange que l'Iran arrête d'avoir un programme nucléaire. Avec l'élection de Trump, avec pas mal de choses de politique internationale, ces accords ont été rompus. Et les États-Unis ont décidé de mettre une pression économique maximale sur l'Iran. Ça fait qu'eux appliquent un boycott eux-mêmes envers l'Iran, mais surtout ils ont bloqué toutes les possibilités d'échange en dollars avec l'Iran. Ce qui fait qu'en fait, vu que le commerce international se fait en dollars, l'Iran se trouve isolé économiquement et ça a des conséquences sur l'économie du pays puisque l'Iran est un grand exportateur de gaz et de pétrole et ça fait que c'est compliqué de vendre ce pétrole parce qu'il ne peut pas être payé en dollars. Et à l'intérieur de l'Iran, ça va faire que des choses comme des médicaments, par exemple, sont de plus en plus difficiles à trouver. Mais voilà, il ne faut pas voir uniquement la situation... catastrophique économique en Iran comme la faute des États-Unis, comme uniquement quelque chose dont les sanctions seraient responsables. C'est avant tout qu'est-ce que le gouvernement iranien choisit de faire face à ces sanctions et comment il gère la politique économique intérieure qui a des conséquences et comment il redistribue l'argent. Je dirais que sur où va l'argent, il y a principalement deux choses. Il y a c'est un système de clientéliste et de corruption très fort. Et quelque chose qui permet de se rendre compte de ça, c'est par exemple en Iran, il y a, on va dire, tout un corps qui s'appelle SEPA et qui est une espèce de force qui est à la fois une force économique et une force armée, qui n'est pas l'armée nationale, qui est une force qui répond directement du leader suprême et qui va avoir à la fois une force armée comme une armée avec des hélicoptères, des tanks et du matériel militaire qui va intervenir à la fois à l'intérieur de l'Iran et à l'extérieur de l'Iran, mais aussi qui va des forces qui vont détenir des entreprises ou des milices civiles qui vont permettre la surveillance et qui vont avoir un pouvoir d'arrestation dans la rue. Et par exemple, le lien par rapport à ce corps-là, il va déterminer beaucoup de choses dans la possibilité d'avoir du travail, dans la possibilité d'avoir une place à l'université, et du coup d'avoir une vie digne économiquement en Iran. Et du coup, il y a un contrôle de l'économie via ce système clientéliste et de milices. Et une deuxième chose importante, c'est que les dépenses militaires sont énormes parce que l'Iran est extrêmement investi à l'extérieur du pays, notamment en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen, avec une espèce de politique de vouloir être une force militaire internationale au Moyen-Orient. Et c'est quelque chose qu'on a entendu dans les slogans de la semaine dernière que les gens dénonçaient. Les dépenses astronomiques qui sont faites en Syrie, qui sont faites dans les autres pays pour maintenir des guerres civiles et qui ne sont pas redistribuées aux populations en Iran. Peut-être on peut écouter un son d'une femme qui crie depuis un pont un peu les revendications de ce qui se passe. Et je vais essayer de traduire en direct. Du coup, elle nous dit « Écoutez tous, faisons-nous entendre, c'est un monde difficile pour nous. C'est à cause de ce bâtard de Khamenei qu'on a tout perdu. Et c'est comme ça que le régime nous remercie pour nos sacrifices. Vous souvenez au régime syrien, à la place de votre propre pays ? » Elle les insulte. Aujourd'hui, même les Irakiens protestent contre la République islamique. On a souffert pendant 40 ans. Mort à Khamenei. Malheur à toi, Khamenei. J'espère que tu vas finir dans un fossé. Et elle insulte les dirigeants. Elle insulte Khamenei. Qu'est-ce que vous avez fait à nos droits ? Voilà, et du coup, par rapport à ce qu'on parlait à l'extérieur, on voit qu'elle dit « Vous souvenez au régime syrien à la place de votre propre pays, que même les Irakiens protestent contre la République islamique. » Et effectivement, depuis un mois et demi, en Irak, il y a des très grandes manifestations contre la corruption, contre le gouvernement, contre le système politique irakien. Et l'Iran a un très, très, très fort rôle politique en Irak. Et une grosse mainmise, et depuis quelques semaines, les Irakiens s'adressent directement au gouvernement iranien pour leur dire de sortir et de laisser la politique irakienne tranquille.
Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause musicale ? Alors, après ce cri hein, de colère et de révolte, on va écouter un morceau qui s'appelle « Moment for Joy ». Mirce, donc un morceau de Daf kurde. Alors, c'était donc Moment for Joy and Mirth de Hussein Alizadeh. On est sur Radio Galère, dans Libre Débat. On est toujours avec Leïla qui nous explique, qui nous partage un peu pas mal d'infos sur ce qui se passe en Iran. Est-ce que tu veux revenir un peu sur la répression, comment ça s'organise?
Bah, je voulais surtout revenir sur la coupure d'internet qu'il y a eu, parce que c'est un événement assez important. Et il y a eu beaucoup de médias, dans les personnes qui ont parlé de ce qui se passait en Iran, qui ont beaucoup adressé ça comme l'Iran ne veut pas que le monde sache ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, de dire que le gouvernement iranien avait fait un huis clos afin de pouvoir réprimer sa population librement sans que personne sache ce qui s'est passé. Ce qui est vrai et ce qui est une dimension importante. Effectivement, la coupure d'Internet a empêché d'avoir des nouvelles de ce qui se passait. Ça faisait que là, maintenant, il y a des vidéos, il y a des sons, il y a plein d'infos qui sortent. Mais pendant 5 jours, c'était impossible de savoir exactement qu'est-ce qui était en train d'arriver depuis l'extérieur. Mais je pense que c'est important de dire aussi que c'est pas que ça. Et que c'est aussi, à l'intérieur, un moyen super fort pour empêcher les gens de s'organiser. Parce que l'organisation passe énormément, énormément par Internet. La possibilité pour les gens de se coordonner et d'organiser un mouvement, elle passe complètement par là. Et c'est quelque chose qui est, en Iran, qui est très institué. C'est-à-dire que... En fait, ça fait longtemps que le gouvernement essaye de contrôler Internet. Du coup, ça fait aussi longtemps que les gens ont l'habitude de contourner l'emprise du gouvernement sur Internet. Et on est dans un pays où les médias sont complètement contrôlés. Et où, du coup, tout le monde sait que les médias officiels racontent n'importe quoi et ne racontent pas plein de choses. Et du coup, je pense que la plupart des gens espèrent pas s'informer, ou en tout cas essayent pas de s'informer avec les médias officiels. S'ils veulent s'informer, ils vont passer par les moyens internet et notamment par les réseaux sociaux, du coup par Telegram, Twitter, Facebook. Et que du coup, il y a une habitude de s'informer comme ça, une habitude de contourner la censure, et aussi une habitude, un rapport, je pense, aux médias et à la réalité qui est différent, parce que il y a une habitude du complot, c'est-à-dire tout le monde sait que ce que racontent les médias officiels, c'est n'importe quoi et qu'il faut a priori pas croire. Tout le monde sait aussi que la seule manière de s'informer, du coup, c'est les réseaux sociaux, et que sur les réseaux sociaux, il y a tout et n'importe quoi qui passe. Et aussi, donc, ça c'est plus sur comment les gens reçoivent l'information et partagent l'information, et comment les gens s'organisent. C'est très compliqué de s'organiser politiquement en Iran, parce que c'est très surveillé, parce qu'on est dans une dictature qui menace les militants. Et que du coup, le fait de pouvoir passer par Internet, le fait de pouvoir passer par l'extérieur et avoir des réseaux de communication anonyme, c'est complètement primordial. Et voilà, tout ça pour dire que le gouvernement, il savait a priori très bien ce qu'il était en train de faire en coupant Internet, et c'était couper toute possibilité des gens de s'organiser et de continuer ce mouvement social.
Est-ce que... Mais en fait, là, Internet n'est plus coupé, du coup?
Non, Internet est revenu. Et du coup, il y avait à avoir la question de la suite. Internet est revenu, mais en réalité, pas complètement. C'est-à-dire qu'une partie de l'Internet est revenue, mais par exemple, l'Internet via les téléphones n'est pas encore revenu. Et l'Iran, depuis des années, essaye de mettre en place un système de connexion intérieure. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas par l'Internet international, et ils ont remis Internet, mais ils ont aussi annoncé que leur système Internet intérieur était prêt à être utilisé, et donc ils allaient essayer de le mettre en place.
Bon, on espère qu'il y aura... On imagine qu'il y a plein de hackers et de hackeuses en Iran pour contourner ça, pour trouver des solutions.
Ben, en tout cas, pendant le blackout, c'est quelque chose. Il y a eu énormément d'appels aux hackers et aux hackeuses sur de l'aide à comment à aider les Iraniens à l'intérieur du pays à établir des connexions.
Et je me pose aussi la question, parce qu'en fait, on en entend peu parler dans les médias français. Est-ce que toi, tu as une idée de pourquoi on en entend peu parler? Et est-ce qu'il y a quelles sont les réactions? Qu'est-ce qui se passe au niveau aussi des réactions internationales? Est-ce que le régime il est critique? Enfin, parce que ça paraît quand même un peu fou d'arriver à couper un pays d'internet, d'une répression aussi violente, aussi sanglante, et puis finalement ça passe quand même assez à la trappe.
Alors pour moi, c'est pas très clair. Il y a eu effectivement très peu de réactions des gouvernements à l'international. Mmh. C'est-à-dire, c'est pas seulement la France, c'est tous les pays européens. C'est même les États-Unis avaient quand même un peu plus de réactions de la part des États-Unis, étant donné que pour le gouvernement américain, l'Iran est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est l'ennemi. Et du coup, il y a tout un truc de, il faut entretenir la vision de l'ennemi. Mais même de la part des Américains, ça a été assez tiède, avec des déclarations de « on est derrière vous », mais pas vraiment de prise de décision, rien de vraiment consistant sur des actions, et rien de qui puisse mettre quelque pression que ce soit, ou en tout cas qui puisse faire face vraiment au gouvernement iranien. Pour ce qui est de la France, le gouvernement français, depuis des années, depuis notamment la rupture des accords sur le nucléaire entre l'Iran et les États-Unis, essaye de se placer comme le gouvernement qui permet la négociation. Et du coup, il y a, de la part du gouvernement français, il s'affiche plutôt aux côtés du gouvernement iranien. Il s'affiche comme celui qui est capable d'écouter, celui qui veut être le lien et aussi le lien commercial, c'est-à-dire il y a régulièrement eu avec des représentants de l'État des voyages d'affaires pour les entreprises françaises en Iran, pour Total, pour Carrefour, pour ce genre de choses. Du coup, je ne sais pas à quel point ça pèse sur le fait de ne pas parler en Europe de ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est aussi une réalité politique entre ces deux gouvernements.
Et t'as pas de boule de cristal, mais quand même, à partir de ce qui se passe, à partir des infos que tu as, à partir des discussions que tu peux avoir avec des personnes qui sont sur place, est-ce que c'est quoi un petit peu ce qui se profile et les enjeux de la suite de ce mouvement ?
Bah, je crois que c'est assez flou. J'ai l'impression des personnes avec qui j'ai pu échanger que là, il y a un truc un peu waouh. C'était fort et d'être un peu sonné et de se dire c'était tellement tellement fort que
tu parles du mouvement ou de la répression
que la répression était tellement tellement forte que de se dire en fait il y a aucune limite, enfin que le gouvernement iranien n'a aucune limite dans ce qu'il est capable de mettre en place pour tuer et réprimer, et que du coup envisager une nouvelle mobilisation, ça veut dire aller contre un gouvernement qui n'a absolument aucune limite. Et du coup, je pense que ça fait peur. Après, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas les premières manifestations. Il y a déjà eu ces vagues de manifestations il y a 2 ans. Il y a déjà toutes ces choses qui arrivent presque chaque mois dans des villes. Et la situation en Iran, enfin, la plupart des gens disent elle est intenable. Elle peut pas rester comme ça. Ça va péter. Du coup, a priori, elle restera pas comme ça, mais c'est difficile de savoir ce qui va se passer. C'est aussi important de se rendre compte de c'est quoi. Enfin, du coup, on parle beaucoup du régime, du gouvernement iranien, des problèmes de ses politiques, mais il n'y a pas une opposition unifiée en Iran. C'est-à-dire, l'opposition iranienne, c'est énormément de choses différentes. Et il n'y a pas une très grosse. Enfin, du fait qu'elle ne soit pas unifiée, il y a pas une très grande organisation transversale pour avoir une opposition forte. Et ça, j'ai l'impression que les gens sont très conscients de dire les gens qui sont à l'intérieur du pays sont un peu seuls aussi avec cette mobilisation. Que du fait que ça soit une dictature, les gens partent beaucoup. Du coup, il y a une diaspora iranienne très forte et que cette diaspora, elle a aussi ses propres très grands clivages politiques. Il va y avoir des mouvements d'opposition qui sont plus connus, comme les Moudjahidines du peuple, ou des royalistes aussi. L'opposition iranienne, c'est aussi les royalistes qui, du coup, ne vont pas être du tout de gauche et qui sont très ennemis du gouvernement, mais qui ne sont pas une force révolutionnaire ou une force qui va soutenir des mouvements populaires, à part si c'est pour ramener à son propre intérêt.
Et quel soutien on peut apporter, quelle mobilisation il y a en soutien, t'as des infos là-dessus?
Il y a eu pas mal de rassemblements devant les ambassades d'Iran, notamment pendant les 5 jours où Internet était coupé, pour essayer de garder une visibilité sur ce qui se passait. C'est difficile de dire comment aider, mais en tout cas une demande qui a été faite là et qui est faite régulièrement depuis des années à chaque mobilisation, c'est diffuser l'information, fait de faire que ça reste pas invisible, que ça soit connu et j'ai l'impression que que face justement à une telle répression et à une telle violence, le fait de savoir que c'est vu, qu'il y a une conscience des gens à l'extérieur de ce qui arrive, c'est quelque chose qui donne de la force et qui compte.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on conclut là-dessus ?
On peut conclure là-dessus.
En tout cas, je te remercie beaucoup d'être venue parce que c'est vraiment un éclairage précieux que tu apportes. Et du coup, reviens quand tu veux avec tes amis pour qu'on puisse un peu suivre et mieux comprendre ce qui se passe de ce côté-là. On va faire une mini pause musicale avant de passer à la deuxième partie de l'émission. On va écouter un slogan, c'est « N'ayons pas peur ».
et un morceau qui vient du sud de l'Iran.
Thank you.
Alors, voilà de retour dans l'émission Libre Débat. On est donc une deuxième partie qui, je vous propose d'écouter le sociologue Pierre Autin qui revient 10 ans après sur le grand mouvement de grève générale contre la vie chère qui a eu lieu en Guadeloupe et en Martinique. Donc lui, il est parti d'un travail d'enquête sociologique, historique. Il a fait beaucoup d'entretiens et il a travaillé dans les archives pour comprendre le rôle du syndicalisme dans ces mobilisations en Guadeloupe et en Martinique. Et il remonte jusqu'aux années 70 aux luttes anticoloniales et révolutionnaires pour aller jusqu'à donc 2009, le grand mouvement contre la profitation. Alors, il était à Marseille le 6 septembre 2019, à la librairie militante Transit, hein, qu'on salue au passage. Et voilà, bah, on l'a enregistré. Et puis, il y a Val qui a fait la mise en onde de cette présentation, avec aussi des archives, des musiques, pour faire résonner toute la colère et la détermination de cette lutte dans le discours plus universitaire, hein, de Pierre Autin, vous allez entendre. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Toutes les références des sons seront marquées sur la page Libre Débat du site radiogalère.org, ainsi qu'aussi des références concernant la première partie de l'émission, donc le mouvement social en Iran et sa répression. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne continuation sur Radio Galère.
Merci à toutes et tous pour votre présence ce soir. Moi, je vais revenir un petit peu sur les raisons pour lesquelles je me suis mis à travailler en fait sur cette question de la grève générale en Guadeloupe et en Martinique. Et puis sur un petit peu ce qu'ont été les fils conducteurs de cette étude, qui a été une étude de terrain, hein, que j'ai fait pendant à peu près 5 ans auprès des syndicalistes en Guadeloupe et en Martinique, en recueillant des entretiens, principalement ce qu'on appelle des entretiens biographiques, donc en essayant d'aller les voir des militantes et des militants, à des postes de responsabilité et de décision, mais aussi à ce qu'on peut appeler des syndicalistes de base, pour essayer de recueillir leurs paroles sur leur trajectoire militante, comment ils avaient commencé à militer, comment est-ce qu'ils s'étaient formés, au contact de qui, et puis pour recueillir un peu leurs ressentis par rapport aux mobilisations en Guadeloupe et en Martinique, et notamment par rapport à la grève générale de 2009.
Manifestant guadeloupéen qui dit mort. Pour nous mettre en tête en l'air. Si on mouna dans un magasin, tiré si on mouna à LKP, tiré si on manifestant, qui a manifesté qui dit mort. Si on mouna blessé, on manifeste pas dans le cadre à ça et café.
Alors, le premier questionnement, moi, ce qui m'avait interpellé, je pense, comme pas mal de gens dans l'Hexagone, vis-à-vis de cette mobilisation, c'était au départ le caractère exceptionnellement unitaire et exceptionnellement radical de la mobilisation. C'est-à-dire que c'est une grève générale qui commence le 21 janvier 2009 et qui se termine au début du mois de mars, qui va durer en tout 44 jours. Et ce sont 44 jours pendant lesquels, non seulement il y a une grève générale avec une cessation généralisée du travail sur l'ensemble du territoire, mais également des blocages des axes de communication, des occupations de certaines entreprises et de certaines administrations, tout un système de démocratie interne qui se met en place à l'intérieur de ce qui s'est appelé le LKP, donc le collectif Lyonnage contre Profitation, pour unité contre l'exploitation. Et moi, ce qui me fascinait au départ, c'était, bah oui, ils ont trouvé le truc, du coup, c'est très unitaire et c'est très radical, donc ils finissent par gagner, ils finissent au bout de la lutte des 44 jours par emporter sur l'ensemble de la plateforme de revendication qui avait été mise en place, finissent par arracher le morceau face aux autorités, aux élites économiques et politiques de Guadeloupe, mais aussi face à l'État central. Donc, mais une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit voilà, il faut être radical et unitaire, en fait, on n'a pas dit grand-chose sur la mécanique de cette unité et de cette radicalité. Et en fait, c'est ce qui a constitué au départ pour moi un point d'étonnement et qui s'est transformé en question de recherche petit à petit, c'est d'essayer de comprendre de quoi ce LKP était le nom, à partir de quelles règles, de quelles modalités il avait fonctionné. Et assez rapidement, en enquêtant sur les principales figures, alors je pense que certains d'entre vous peuvent connaître par exemple Elie Domota, qui est secrétaire général du syndicat indépendantiste en Guadeloupe, de l'Union Générale des Travailleurs de la Guadeloupe, qui a été le porte-parole du LKP au moment de la grève et qui continue d'être une figure de la contestation en Guadeloupe.
Élie de Motta, vous ne répondez pas à ma question. Si l'État français accorde cette augmentation de 200 euros, est-ce que vous laisserez tomber les autres propositions ?
Je crois avoir répondu à cette question. La plateforme de revendication a été déposée depuis décembre. Cela fait 2 mois que tout le monde possède cette plateforme de revendication. Chacun devra assumer ses responsabilités. Il s'agit pour l'État et les patrons de nous affamer. Nous leur avons démontré qu'en Guadeloupe, il y a possibilité de manger, même si les magasins de M. Ayotte sont fermés.
Mais assez rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, l'essentiel de la coalition, c'est-à-dire de à la fois les principales revendications, à la fois les organisations qui avaient le plus de militants, les organisations qui avaient le plus de visibilité, celles qui envoyaient des gens qui étaient mandatés pour négocier avec des autorités, étaient des syndicats. Mais que ces syndicats, dans le même temps, avaient accepté non seulement de s'associer entre syndicats, ce qui n'est pas forcément évident au vu des relations pour le moins concurrentielles que les syndicats entretiennent en Guadeloupe, et puis de s'ouvrir à tout un tas d'associations de la société civile, parmi lesquelles on trouvait des associations culturelles, des groupes carnavalesques, des associations pour la défense de l'environnement, des associations qui s'étaient constituées autour de la question des mutuelles, enfin, qui sont des questions importantes en Guadeloupe, parce qu'au moment de la transition vers la sécurité sociale, il y a tout un tas de petites mutuelles ouvrières et paysannes qui avaient été expropriées, des associations pour la mémoire de l'esclavage, bref, tout un tas d'organisations qui avaient décidé de se coaliser pour entamer un vaste mouvement de grève et de mobilisation en Guadeloupe à ce moment-là.
Oui, Guadeloupéens, c'est l'heure qui arrivait pour nous mettre nous debout. Oui, debout contre toute profitation. El Capé, vous versiez à nous.
Dit, ben, quand même, il y avait un spectre d'organisation très très large, et en fait, j'ai commencé à travailler sur les principaux syndicats, et assez rapidement, je me suis rendu compte que les syndicats défendaient de façon beaucoup plus explicite que ce qu'on peut rencontrer dans l'Hexagone, des lignes politiques, c'est-à-dire que à la fois dans le recrutement, dans la formation, il y avait tout un logiciel idéologique qui était propre à ces organisations. Alors, l'UGTG est une organisation indépendantiste, mais c'est aussi vrai pour tout un tas d'organisations guadeloupéennes et martiniquaises qui sont assez proches de ce qu'on pourrait appeler la gauche radicale ou l'extrême gauche, notamment des courants du trotskisme. Et petit à petit, je me suis rendu compte que cette politisation des organisations syndicales, elle venait pas de nulle part, elle venait d'une histoire particulière qui avait vu en fait se succéder différentes vagues de mobilisation et de politisation, et qu'en fait les syndicats avaient été un peu l'espace de rémanence ou de reconstruction d'une ligne politique sur ces territoires. Et que, au final, ce qui était les organisations anticolonialistes de la fin des années 60 et du début des années 70 aux Antilles, qui font tout un travail d'agitation auprès alors, de la jeunesse scolarisée, mais aussi de secteurs ouvriers et agricoles du secteur cagnier, eh bien, ces militants-là, en fait, qui s'étaient politisés dans les années 60-70, avait continué un effort d'organisation politique, mais plus dans des organisations politiques autonomes, à l'intérieur, ça s'était déplacé à l'intérieur des syndicats. Donc, toutes ces questions-là, ça s'est vraiment construit au fur et à mesure de mes entretiens avec les enquêtés, avec les responsables syndicaux, où j'ai commencé un peu à tirer le fil de qu'est-ce qu'il y avait derrière la profitation, pourquoi est-ce que c'était des catégories anticolonialistes et anticapitalistes qui revenaient dans le cours de la mobilisation, ce qui n'est rien d'évident. Et après, par la suite, comment est-ce que ces orientations-là, elles se maintenaient à l'intérieur des organisations syndicales, et ces organisations syndicales qui occupent quand même un espace politique relativement marginal à l'échelle de la société guadeloupéenne, comment est-ce qu'ils avaient réussi à s'adresser à des tranches très très larges de la population? Puisque dans les pics de mobilisation pendant la grève générale, on a quasiment un quart de la population guadeloupéenne et un quart de la population martiniquaise qui descendent dans la rue pour manifester avec le LKP en Guadeloupe et avec le collectif du 5 février.
La vie est chère, oui, bien sûr.
La vie est chère en Martinique.
Oui, la vie est chère.
La vie est chère en Martinique, je crois qu'on peut le dire.
Ah, très cher, hein.
La revendication de la population, c'était « la vie est trop chère à la Martinique, on n'en peut plus, les prix sont chers partout ».
Trop cher ! Trop cher ! Trop cher ! Trop cher !
Nous avions le sentiment que les choses coûtent cher. C'est pas seulement un sentiment. On a été chercher des documents. Et on a vu effectivement qu'il y avait ce que nous avons appelé de la profitation.
Donc là, je dresse un peu à grands traits ce qui a constitué la problématique du bouquin. Et alors, je me suis rendu compte de plusieurs choses qui m'ont interpellé. Une des premières découvertes, entre guillemets, pour moi, ça a été effectivement le rôle central des événements de mai 67 en Guadeloupe que Elsa s'est proposée de rappeler. Alors, avec cette répression extrêmement féroce qui va frapper la jeunesse anticolonialiste qui commence à avoir des formes embryonnaires d'organisation. Et puis aussi, une certaine influence de mai 68, même si ce n'est pas une simple traduction de ce qui s'est passé dans l'Hexagone en 68 et des manifestations étudiantes et ouvrières. Moi, j'ai compris au fur et à mesure des entretiens que la spécificité de cette génération anticolonialiste qui milite pour l'indépendance de la Guadeloupe et de la Martinique dans les années 70, elle doit beaucoup à des formes de circulation entre les territoires antillais et puis l'Hexagone, qui se fait très souvent à la faveur des études. C'est-à-dire que dans les années 60-70, il y a une relative massification du système scolaire. La Guadeloupe et la Martinique accèdent au rang de département français uniquement en 1947. À partir de ces années-là, il y a une relative massification scolaire qui permet à, on va dire, une petite bourgeoisie intellectuelle, noire et métisse, d'accéder progressivement au baccalauréat et aux études supérieures. Sauf que ces jeunes qui sont un peu censés être la vitrine de promotion de l'intégration et de l'assimilation à la française, en fait, très vite, ils développent des velléités anticolonialistes. Alors on dit, vous êtes l'élite de ces territoires, mais eux se rendent bien compte qu'à côté d'eux, il y a toujours une exploitation extrêmement féroce, et notamment dans le monde agricole et dans les usines sucrières. Il y a toute une partie de la population qui est éjectée du système scolaire de façon extrêmement précoce. Il y a une conscription forcée qui est extrêmement violente. Il y a le Bumidom qui organise la migration du travail depuis les territoires ultramarins vers l'Hexagone. Donc il y a ce climat qui est extrêmement pesant et qui va être décrypté par cette jeunesse-là qui dit « mais enfin, on ne peut pas rester à rien faire ». Donc on trouve les prémices de ces organisations-là dans les années 60, même dès la fin des années 50, avec l'organisation de la jeunesse anticolonialiste en Martinique, ce qu'on appelait l'affaire de l'Ojam. Vous avez tout un tas de lycéens qui sont poursuivis par l'État français pour avoir tagué dans Fort-de-France des slogans anticolonialistes. Il va y avoir la répression du groupement des organisations nationalistes guadeloupéennes en 67 en Guadeloupe. Et ça va continuer comme ça pendant toutes les années 70.
Mai 67, journée la santé pour mal tourner. CRS déjà débarqué, en tout janté pour nidifé. Peu pas moins descendre, manifester. Petit anègre, on pas qu'à chouler. Danger, petit en moins en danger. CRS décide tirer. Oh 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 oh. 67.
Ce qui se passe en 68 et que moi j'identifie comme un point de différence avec la continuité du mouvement qu'on pouvait dire indépendantiste ou nationaliste avant, c'est qu'au contact des mouvements étudiants et ouvriers et de l'extrême gauche hexagonale, on va avoir une certaine diversification des cercles d'étudiants caribéens qui se reconstruisaient depuis l'Hexagone. C'est-à-dire que ces jeunes qui partent faire des études en Hexagone vont créer des associations, ce qui vont s'appeler les Assemblées Générales des Étudiants Caribéens. Il y en a dans différentes villes en France. Il y en a à Paris, à Lille, à Bordeaux, à Lyon, à Grenoble. Vous avez comme ça des noyaux d'étudiants qui discutent de la situation politique et qui se politisent aussi au contact des organisations de l'extrême-gauche étudiante, notamment des mouvements maoïstes et des mouvements trotskistes. Et c'est à partir des années 68-70 qu'il y a une véritable diversification et où ils commencent à s'engueuler, alors avec tout le lexique de cette époque-là, est-ce qu'il faut faire la guerre populaire prolongée, ou alors est-ce qu'il faut déclencher une grève générale insurrectionnelle, comment est-ce qu'on va mener une révolution nationale, et ils décident, pour la plupart, de revenir au pays avec l'idée qu'on va faire des organisations révolutionnaires, on va s'adresser à la classe ouvrière, et on va déclencher une révolution qui, bon, pour certains d'entre eux, emprunte le chemin du Black Panther américain, pour d'autres de la guérilla cubaine, pour d'autres de la révolution culturelle en Chine. Mais ils importent toutes ces logiques contestataires qui vont trouver un certain écho, en tout cas de façon pas négligeable, puisque ça va rencontrer de l'écho auprès des ouvriers de la canne, ça va rencontrer de l'écho auprès des travailleurs du bâtiment, et puis globalement, ça va recueillir une audience qui est... demeure relativement modeste, hein, je veux dire, la Guadeloupe et la Martinique ne deviennent pas des territoires d'extrême gauche du jour au lendemain, mais ils recueillent quand même une audience assez considérable.
Eh bien, nous commençons morceau par un morceau pour nous faire tout le monde savoir que nous, on était à pour un moment, on était à 100 jeunes, et surtout pour tout le monde qui sorti à 7000 km de venir ici, ils savent qu'ici, c'est combat, c'est force physique, c'est fils moral. C'est force, c'est manifestation, c'est force. Il faut que tout le monde sache c'est l'unité. Et puis c'est entrer encore comme on. Et puis des fois, bien sûr, pour entrer encore comme même, et puis encore frère, et puis encore sœur, maman ou papa, mais il faut red et puis quoi. Parce que si vous pas red, eh bien, il y a qu'à manger.
Et ça va se produire de cette façon-là, jusque dans les années 80, où à ce moment-là, il y a un certain affaissement de la politique révolutionnaire, même s'il y a des organisations qui continuent à défendre une politique anticolonialiste, il va y avoir un déplacement assez massif de la question politique vers les syndicats. C'est-à-dire que ces personnes-là qui étaient la génération de la décolonisation, en fait, et qui naissent dans la période... Les gens qui ont 20 ans en 68, ils naissent dans la période de 47 à 50, quoi, donc en pleine période de la départementalisation, vont se mettre à, alors vont connaître une vie professionnelle et parfois maritale un peu plus stable, vont un petit peu, je dirais, se calmer sur la contestation, mais vont décider de reprendre en main les organisations syndicales. Alors, en 1973, vous avez la naissance de l'Union Générale des Travailleurs de la Guadeloupe, qui décide dès le départ, en fait, de s'implanter dans le secteur cannier, mais qui va se trouver assez vite en difficulté, puisque c'est le moment où l'industrie sucrière est en crise en Guadeloupe, et donc il y a des fermetures d'usines à répétition, et ces jeunes-là vont aller au contact des ouvriers du secteur cannier et des paysans pauvres qui se mettent en grève pour essayer de fonder une organisation syndicale, et c'est ce qui donne le GTG en 73. Dans tout un tas d'autres organisations, par exemple à la CGT ou à la CFDT martiniquaise, vous allez avoir une reprise en main par des militants qui sont proches de l'extrême gauche, des différentes formations trotskistes, et qui vont décider de prendre en main, un peu de truster les directions syndicales, et petit à petit vont mettre en minorité ce qui était l'essentiel du militantisme communiste à l'époque, et petit à petit, dans les années 80-90, vont arriver à la tête des syndicats. Bon, tout ça pour dire qu'au moment de la grève générale de 2009, c'est pas... Ces mots d'ordre et ces revendications anticapitalistes et anticolonialistes, ils ne viennent pas de nulle part. Il y a tout un tas d'expertises et de matériel militant, il y a toute une habitude de formation politique au contact des salariés, puisque depuis 20 ans, 30 ans, ce sont des militantes et des militants qui non seulement prennent en main le travail de représentation et de défense des salariés, le travail syndical, c'est-à-dire qu'ils accueillent tous les salariés qui ont des problèmes, mais en plus de ça, qui mettent en place tout un travail de politisation, d'éducation populaire aussi. C'est très vrai dans le syndicat indépendantiste en Guadeloupe. C'est un milieu qui est très proche des groupes carnavalesques, des mouvements pour la mémoire de l'esclavage, des mouvements antiracistes, et qui prennent un positionnement qui est extrêmement minoritaire, mais qui est, comment je pourrais le formuler, qui recueille une audience certaine, quoi. C'est-à-dire que quand l'UGTG dénonce le racisme en Guadeloupe, c'est quasiment la seule organisation à le faire. Alors qu'on est dans une situation politique où, clairement, vous avez une direction du monde du travail qui est majoritairement blanche et un salariat d'exécution qui est majoritairement noir et métisse. Pose la question des discriminations au travail, pose la question de comment est-ce que les hiérarchies raciales se retrouvent dans la division du travail et dénonce une surreprésentation des blancs au poste d'encadrement. Voilà. Et ça, c'est des questions qui sont prises en charge pour l'essentiel par ces organisations indépendantistes et anticolonialistes. Le deuxième volet qui est extrêmement important, c'est qu'il y a un volet de formation et de conscientisation qui fait ressortir tout ce qui est du domaine de l'histoire, de la mémoire et de l'identité créole. Donc quand vous rentrez comme syndicaliste à l'UGTG, vous avez automatiquement une formation sur l'histoire des résistances anti-esclavagistes, l'histoire des luttes ouvrières aux Antilles. Et comme ce sont des choses qui sont très peu abordées dans les programmes scolaires, en fait, le GTG, à travers ce biais-là, fait tout un travail de conscientisation pour conserver dans son giron même des gens qui ne sont pas au départ convaincus. Il y a tout un tas de gens qui découvrent l'histoire de la Guadeloupe au contact de ces organisations-là. Tout ce travail d'éducation populaire qui est fait par les syndicats est vraiment central si on veut comprendre l'influence qu'ils peuvent avoir auprès de la population, même si quand on parle de l'indépendance en Guadeloupe et en Martinique, il y a une très large partie de la population, une très nette majorité qui est encore complètement opposée à l'indépendance de ces territoires. L'histoire, falsifier l'histoire, Bouillot apprend nous qu'à qui l'histoire. L'histoire, on paquette l'histoire, rien ne les savent qu'à qui l'histoire. L'histoire, à d'un livre l'histoire, qui t'en n'a que pas place, ça y a dans l'histoire. L'histoire, on paquette l'histoire, non man, rien n'a que dit ou qu'à qui l'histoire. Le dernier point qui m'a semblé intéressant, parce qu'il ne faut pas s'imaginer ce qu'on pourrait voir comme au départ un moment très particulier d'unité d'action dans la lutte, a nécessité tout un travail de mise en accord entre ces différentes organisations, qui s'est fait bien en amont de ce qui a été le déclenchement de la grève générale. En fait, dès la fin de l'année 2008, à l'issue des élections professionnelles en Guadeloupe, il y a tout un tas de réunions préparatoires qui se passent entre les directions syndicales, notamment de l'UGTG et de la CGT, qui sont des organisations qui n'ont pas du tout le même logiciel politique et qui sont extrêmement rivales. Ils disent, voilà, l'UGTG dit que ce serait bien de faire un mouvement sur l'essence et éventuellement contre la vie chère. Sachant qu'il y avait eu une première mobilisation en fait en Guyane quelques mois avant, pendant l'hiver 2008, et il y avait un mécontentement autour de cette question du prix de l'essence. Et voilà, ce serait bien qu'on fasse une campagne unitaire. Donc le GTG propose ça. Et assez rapidement, la CGT dit « Oui, bon, ça, c'est votre truc, faites une campagne sur la vie chère, mais on ne peut pas s'en tenir à ça. Si on est une organisation syndicale conséquente, il faut qu'on aille chercher une augmentation des salaires et des minima sociaux. » Petit à petit, la première grosse revendication du LKP, qui est celle des 200 euros, se met en place. Alors là, il y a toute une bagarre qui est un peu à couteau tiré entre les indépendantistes et la CGT, parce qu'ils n'ont pas du tout la même vision du truc. Pour les indépendantistes, c'est totalement normal que l'augmentation des salaires ou des minima sociaux elle soit comblée par l'État, puisque pour eux, l'adversaire principal, c'est l'État français. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un mouvement et on va demander à l'État français d'allonger si les entreprises ne peuvent pas payer. La CGT dit non, pour nous, ce n'est pas à l'État de payer, c'est au patronat. Donc, on va demander à ce que les 200 euros d'augmentation des salaires et des minima sociaux soient intégralement financés par le patronat local. Et vous avez tout un tas de discussions comme ça qui sont extrêmement âpres et où finalement, ils arrivent petit à petit, alors au prix d'un travail où il y a tout un tas de tractations, hein, ce que c'est « je te donne ça, tu me lâches ça », ils arrivent finalement à se mettre d'accord sur une plateforme de revendication qui comporte non seulement cette augmentation des salaires, mais ce qui est extrêmement important dans ce moment particulier, c'est que ça contient aussi le gel des prix. Mais ça, c'est une autre organisation syndicale qui s'appelle la CTU en Guadeloupe qui va l'apporter en disant « Oui, mais en fait, si on augmente les prix de 200 euros, mécaniquement, ça va se répercuter sur l'inflation. La grande distribution sont pas bêtes. Dans deux semaines, en fait, tous les prix sont repartis à la hausse et ça sera fini. » Donc, ce qu'ils décident, c'est d'établir tout un panier de biens de première nécessité et d'établir des prix fixes avec ce qui va s'appeler un bureau d'études ouvrières, et en fait un organisme de contrôle qui va être chargé de vérifier les prix pour que la hausse des salaires et des minima sociaux ne se répercute pas sur l'inflation. Donc ils forment toute cette plateforme de revendication, et à partir de la mi-décembre, il commence à y avoir des premières manifestations, et là, les syndicats sentent bien qu'il se passe quelque chose, parce que les premiers meetings, il commence à y avoir une affluence, et des gens arrivent avec tout un tas d'autres revendications, tout un tas d'autres questionnements sur pourquoi est-ce que on paye les denrées, l'essence, tout un tas de produits manufacturés aussi chers, tout un tas de discussions qui s'élaborent, et ils sentent un peu qu'il y a un truc en train de partir.
Le symbole même de cette assimilation par la consommation, tu l'as dans l'objet symbole du sapin de Noël. Ici, on achète des sapins de Noël à Noël, ça c'est quand même fantastique. J'ai les moyens de me payer un sapin de Noël. Donc c'est très puissant, très redoutable. Parce que c'est l'assimilation qui ne se voit même pas comme telle.
arrive la date donc le 21 janvier, ils décident de déclencher une grève générale contre la vie chère, sous le nom du collectif Clionnage contre Profitation. Et c'est dès le début, il y a des manifestations qui sont assez importantes. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que c'est des manifestations de 10-15 000 personnes. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu des manifestations d'ampleur comme ça dans l'agglomération de Pointe-à-Pitre. Là où le mouvement va connaître aussi une sorte de basculement, il y a un moment qui est extrêmement important et qui est très rare. Enfin, moi, ça m'a beaucoup interpellé en tant que sociologue des mobilisations ou du syndicalisme, parce que c'est un truc qui se produit très très rarement. C'est qu'en fait, le préfet va convier à la table des négociations les organisations du LKP, et notamment les syndicats, et va demander à ce que ça soit filmé. En disant, c'est des excités révolutionnaires, grosso modo, on va leur donner, on va céder sur 2-3 trucs, et puis on va essayer de les faire un peu, on va essayer de les laisser s'énerver tout seuls, et puis ils finiront bien par rentrer chez eux. Honnêtement, enfin, je grossis un peu très, je caricature, mais il y a quand même des réflexes encore un petit peu coloniaux dans ces territoires, dans la gestion et dans un moment de mobilisation comme ça. Donc le préfet demande à ce que les négociations soient filmées. Donc les négociations sont filmées et c'est resté comme un des pics d'audience de la télé locale qui relaie ça, Canal 10. Et du coup, au lieu de cet accès d'emportement qui était attendu par le préfet, les syndicalistes sont arrivés avec tout un tas de questions et de revendications. Ça faisait 2 mois qu'ils avaient une plateforme de revendications, ils avaient bossé tout un tas de trucs. Ils ont dit, bon, ben voilà, maintenant vous nous expliquez pourquoi est-ce que la brosse à dents, on la paye 5 euros. Ils disent, ah ben le préfet est bien embêté pour dire pourquoi on paye 5 euros la brosse à dents. Voilà, ça dure, ça traîne. Et finalement, c'est le préfet qui finit par quitter la table des négociations, parce que le truc est un fiasco total. Et ils disent, voilà, au bout de 2 heures de discussion à se faire ramasser à la petite cuillère par les militants du LKP, il finit par lâcher le morceau et il s'en va, quoi. Et alors là, ça crée une espèce de climat un peu bizarre en Guadeloupe, où les gens disent, mais attendez, là, quand même, on a eu les élus, le préfet, les responsables du patronat, personne n'est capable de rien expliquer. Clairement, les qu'est-ce qui se passe avec eux ? Et dès le lendemain, en fait, il y a un pic de mobilisation, et là, on s'est estimé entre 50 000 et 80 000 personnes dans la rue en Guadeloupe, où les gens défilent avec le LKP en disant « mais la profitation, ça suffit, il faut arrêter le truc ». L'État n'a pas de réponse.
Écoutez, ce qui est surprenant, c'est qu'un ministre puisse venir en Guadeloupe, prendre des engagements, mettre 140 millions sur la table et retourner à Paris dire qu'il n'a rien dit. Je crois qu'il faut être sérieux. C'est soit le gouvernement a une parole, ou soit c'est comme si on était dans un boui-boui et chacun fait ce qu'il veut. Je crois qu'il serait souhaitable d'éclaircir cette situation.
Quand Yves Jégot déclare que l'État fera respecter le droit en Guadeloupe, comment est-ce que vous interprétez ces propos ?
Écoutez, ce n'est pas étonnant. Et d'ailleurs, nous avons eu l'occasion de lui en toucher 2 mots. Demain, nous avons une manifestation dans la commune du Môle pour commémorer le 14 février 1952, où 5 personnes ont été tuées par les gendarmes dans le cadre d'une manifestation des ouvriers qui réclamaient une augmentation de salaire dans la CAN. Nous lui avons parlé également des 26 et 27 mai 1967 où pas moins de 100 ouvriers avaient été tués à Pointe-à-Pitre dans le cadre, encore une fois, de réclamations salariales où les ouvriers du bâtiment réclamaient 2,5% d'augmentation de salaire. À partir du moment où l'État ne peut pas répondre aux revendications des travailleurs, c'est la répression. Et je crois aujourd'hui que la Guadeloupe est le département français où il y a le plus de gendarmes par habitant.
Oui, mais l'État fera respecter le droit en Guadeloupe. Vous prenez ça comme un rapport de force ?
Ça veut dire que dorénavant, M. Jégot est prêt à réprimer et à tuer les Guadeloupéens, comme en 1952, comme en 1967.
Là-dessus, à partir du 5 février, ça embraye en Martinique. Alors, en Martinique, les choses avaient été assez différentes. C'est-à-dire qu'ils avaient aussi essayé de fabriquer un début de mobilisation, mais plus sur une base intersyndicale assez classique. C'était beaucoup moins ouvert aux associations. Et puis, ils décident ça commence à prendre en Guadeloupe. Du coup, on déclenche la grève générale le 5 février. Et le 5 février, il y a 20 000 personnes dans la rue en Martinique. Alors là, ils sont un peu embêtés. Ils réagissent un peu dans l'urgence. Il faut une réunion à la maison du syndicat. On est 4 jours le 5 février. On va s'appeler le collectif du 5 février. Et petit à petit, ce qui s'était passé en Guadeloupe se met en place aussi progressivement. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de cercles de discussion. Alors, il faut s'imaginer que tous les jours, il y a des assemblées générales à la fois sur les lieux de travail, mais aussi sur les places publiques, où les délégués du LKP et du K5F sont enjoint à rendre des comptes sur les négociations, tienne au courant la population, voilà, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui a reculé, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et ils sont obligés tous les jours, enfin, eux-mêmes sont contraints tous les jours, parce qu'il y a une attente importante d'organiser des discussions politiques où toute une part importante de la population vient s'informer. Alors, parfois simplement pour savoir est-ce que c'est encore bloqué demain, ou est-ce qu'on peut aller à la poste, est-ce que le Cora en haut il est toujours bloqué, est-ce que quelqu'un a de l'essence, enfin, comment ça fonctionne, parce que les gens restent là et discutent de politique. Et ce mouvement-là va continuer jusque à la mi-février, où là va quand même y avoir un moment de tension plus important, et où il y a des barrages qui sont érigés à la fois en Guadeloupe et en Martinique, et où il y a des affrontements. Il y a des affrontements notamment dans la périphérie de Pointe-à-Pitre et la périphérie de Fort-de-France, parce que c'est des quartiers extrêmement populaires, où la jeunesse n'a pas des relations excellentes avec les forces de l'ordre, et donc au bout de 2 semaines où ils voient des manifestations et puis des échanges avec la police qui sont un peu tendus, décident de descendre sur les barrages et de s'affronter avec les forces de l'ordre. Donc là, c'est la situation un petit peu tendue. Il y a vraiment un climat de désinformation qui est très complexe dans ce moment-là à gérer pour les militants du LKP. Ils savent pas trop, ils envoient à un moment des brigades sur les barrages et en même temps, ils se rendent bien compte que laisser les jeunes des quartiers aller s'affronter avec les forces de l'ordre, c'est les envoyer au casse-pipe. Donc, c'est vraiment des moments d'arbitrage qui sont très très complexes, savoir comment on maintient la pression, est-ce qu'on peut le faire, jusqu'à quel point. Et puis, il y a le moment où c'est vraiment ça culmine, c'est quand un syndicaliste guadeloupéen qui s'appelle Jacques Binot, qui est membre de la CGT et puis d'un groupe carnavalex qui s'appelle Aquio, est assassiné en bas de chez lui, en bas d'un bloc, le soir du 17 ou du 18 février, si je ne me trompe pas, et assassiné sans qu'on sache bien les ressorts il est abattu par balle devant chez lui.
Ce matin, on nous disait qu'il a été tué par un tir non identifié, puisqu'on n'a vu personne, et brusquement après, on nous dit qu'il a été tué par des jeunes. Donc là, nous demandons qu'il y ait une enquête approfondie pour dire la vérité sur ce qui s'est réellement passé à la résidence Henri IV ce matin. Nous invitons les Guadeloupéens à rester dignes, à ne pas céder à la panique, à ne pas céder au désespoir. Le camarade est tombé. La meilleure chose que nous puissions faire pour justement continuer en sa mémoire, mais c'est continuer de lutter pour une meilleure vie, pour nous et pour nos enfants et pour demain.
Alors, un des scénarios qui est assez probable par rapport à cet assassinat, c'est que quelqu'un ait payé des jeunes du quartier pour assassiner Jacques Binot. Ce qu'il y a derrière, clairement, c'était une partie du patronat, du grand patronat et notamment des béquets. Tout ça, je vous le dis comme ça, c'est pas corroboré. Hein. Enfin, c'est des trucs qui seront déclassifiés dans c'est pas quand. Mais l'intuition qu'on peut avoir, c'est qu'il fallait à un moment donné qu'il y ait un mort pour que les choses basculent, soit dans des affrontements. En tout cas, eux, ils espéraient qu'il y ait une réponse de l'État central et une répression très très forte. Ouais. C'était ce qui était attendu par une partie du patronat. Alors, on envoie quelqu'un pour assassiner un syndicaliste. Ça crée un climat de suspicion généralisée et puis de tension très très forte. Et ça favorise les appels de toutes les parties conservatrices qui veulent dire « Maintenant, si on veut calmer le jeu, il faut envoyer la police ou envoyer l'armée, il faut que ça s'arrête. » Bon, je dirais, assez heureusement, ça ne s'est pas traduit par une flambée de violence encore plus forte. Ça s'est traduit en fait par une mobilisation vraiment constante de l'ensemble des forces du LKP et du K5F qui ont fini au début du mois de mars par obtenir gain de cause sur l'ensemble des revendications de la plateforme. Donc la revendication des 200 euros est passée, le contrôle et le gel des prix aussi, l'instauration du bureau d'études ouvrières, tout un tas de revendications alors qui sont un peu plus entre guillemets secondaires, en tout cas qui étaient moins populaires mais qui étaient quand même très discutées à ce moment-là, sur des enquêtes sanitaires sur le chlordécone, qui est un pesticide qui a été utilisé aux Antilles et qui crée qui cause des maladies, notamment des cancers depuis une trentaine d'années maintenant, la toxicité et la dangerosité sont avérées, tout un tas de mécanismes qui étaient censés être mis en place pour favoriser l'embauche locale, tout un tas de mécanismes pour empêcher en fait la sous-traitance, notamment dans l'hôtellerie, ce qui est un gros problème, parce qu'en fait, les hôtels aux Antilles organisent des trucs, ou alors ils font venir des gentils animateurs, ils ont le droit de faire ça avec l'Union Européenne, c'est assez génial, ils font venir des gens qui ne sont même pas salariés. En fait, ils proposent à des jeunes, ils leur disent, voilà, on vous paye l'hôtel et puis on vous paye un stage. Les gens viennent travailler dans l'hôtellerie en lieu et place de la population guadeloupéenne et martiniquaise. On dit, voilà, vous êtes nourri logé, vous êtes à la plage, vous travaillez dans l'hôtellerie, c'est sympa, vous faites les kékés dans la piscine. Et puis, voilà, donc ça, c'est des trucs qui ont été formellement interdits par le LKP sur le moment. En tout cas, ils ont essayé de limiter ce type de fonctionnement abusif. Voilà, tout un tas d'autres revendications sur les loyers, l'électricité, l'eau qui sont acceptées. Et ça se termine quand même avec deux ou trois jours de grève supplémentaires pour être sûr que les accords allaient être acceptés, parce que les papiers étaient signés, mais ils ont quand même tenu à maintenir la pression symboliquement pour obtenir gain de cause jusqu'au bout. Voilà, c'était pour vous dresser un peu le tableau de ce en quoi a consisté la grève générale et comment ça s'était mené dans ce moment-là. Alors juste pour donner des éléments un petit peu plus actuels et puis tracer un peu de perspective, le souvenir des événements de la grève générale en Guadeloupe et en Martinique, c'est quelque chose d'assez clivant parmi la population, parce qu'il y a eu tout un tas de discours rétrospectifs qui ont tendu à dire, voilà, c'est quelque chose qui a déstabilisé l'économie, ça a fait fuir les touristes, ça a donné une mauvaise image de nos territoires. Bon, il y a tout un tas de gens en Guadeloupe et en Martinique qui pensent comme ça. Il y a toute une autre part de la population qui dit, oui, mais quand même, les problématiques qui étaient pointées à ce moment-là, la vie chère, le chômage, la difficulté des conditions de vie, et puis la différence d'accès à tout un tas de services pour les Guadeloupéens, les Martiniquais, vis-à-vis de ce qu'on connaît dans l'Hexagone, c'est toujours là, et puis c'est pas les syndicalistes qui l'ont inventé, donc voilà, c'est quand même un moment qui a été important pour dire non à ça, il faudrait peut-être continuer et persévérer sur cette voie-là. J'aurais-t-il que c'est un souvenir extrêmement clivant. Ce qui reste, à mon avis, et ce qui demeure, lui, c'est que, comme il y a encore tout un tas de traces de fonctionnement colonial, à la fois dans l'économie et dans l'organisation du pouvoir politique, la critique anticolonialiste, elle continue d'avoir une validité. Ce qui ne veut pas dire que cette validité soit reconnue par tous. Elle est parfois très intermittente parmi la population. Mais il se trouve que ce sur quoi mettent le doigt les anticolonialistes, ça fait mouche à intervalles très très réguliers. Je vais donner un exemple récent. En novembre 2017, vous avez eu un incendie qui a dévasté le CHU de Pointe-à-Pitre, qui était déjà une installation particulièrement vétuste. Et donc, à ce moment-là, voilà, les pouvoirs publics ont dit « Bon, ben, c'est peut-être l'occasion quand même de reconstruire l'hôpital de Pointe-à-Pitre. » Et là, on en est à un an et demi, et la plupart des travaux n'ont toujours pas commencé. Bon, on peut tout à fait élever les gens en leur disant, de toute façon, que ce sont des Français comme les autres et qui vivent en accédant à la même chose. Mais quand on n'est pas fichu, entre guillemets, de faire tourner un hôpital, ce qui est comme le besoin de santé basique, dont tout le monde a besoin, c'est des problématiques qui sont très importante aux Antilles, il y a des populations vieillissantes, il y a beaucoup de problèmes d'addiction, il y a tout un tas de besoins de santé qui sont très forts.
Guadeloupe en danger, ouais, ouais, y a danger, mais Guadeloupe en danger, en danger au CHU.
On nous a demandé de revenir sur des choses, on nous a demandé quelles propositions nous avions fait, alors qu'ils sont censés connaître aussi les propositions, et au final, à chaque fois qu'on a essayé de donner des choses, ils nous ont dit que, ils nous ont demandé si nous étions sûrs, ils nous ont pris comme d'habitude, le même dédain.
Et il y a toujours des retards et des imbroglios dans la situation où tout le monde se renvoie la balle parce qu'à un moment donné, l'Agence régionale de santé a dit ça, et puis de l'autre côté, les médecins locaux ont dit ça, et puis bon, les syndicats, ils ont dit ça, mais est-ce qu'il faut vraiment les prendre au sérieux? Et tout ça, ça témoigne quand même d'un type de fonctionnement qui est, à mon sens, empreint d'une forme de colonialisme, quoi. C'est-à-dire que tout dysfonctionne, et tant qu'il n'y a pas, à un moment donné, un conflit extrêmement fort pour poser le problème en des termes clairs, eh bien, personne ne se soucie du fait que ça dysfonctionne. Et ça peut continuer à dysfonctionner tant que ça n'atteint pas l'État central. Donc, voilà, je pense que la critique anticolonialiste et la façon dont elle a été formulée par le LKP et le K5F, elle trouve toujours une audience, une forme de validité, parce qu'il y a toute une expérience de lutte qui s'est accumulée et qui fait que voilà, les entrepreneurs de mobilisation, les militantes et les militants de terrain, les structures syndicales et les structures associatives sont habitués à désigner la réalité comme coloniale, mais aussi parce qu'il y a tout un tas de problématiques qui perdurent et qui sont anticolonialistes, mais ça, les militants de terrain ne l'inventent pas. Et quand ça rencontre à un moment donné la population et que c'est rendu public, ça a toujours des effets assez déstabilisants pour le pouvoir en place, quoi. Pour l'exercice ordinaire du cours du pouvoir et du cours de l'économie aux Antilles.
Quand on dit au préfet qu'il n'est quand même pas normal que tous les chefs de service soient blancs, quand on dit que dans les entreprises dirigées par les béquets, qu'il n'est pas normal que tout l'encadrement soit blanc dans un pays à dominance noire, bon, c'est du racisme. Je ne sais pas. Je crois plutôt que c'est un constat. Les Wallopéens sont victimes de discrimination raciale à l'embauche, alors que nous sommes la majorité ici. Il faut changer les choses. Et ce n'est pas du racisme que de le dire. Je crois que le nier, c'est être raciste. Nier cette évidence, c'est être raciste.
Qu'est-ce que ça va donner? Là, la situation politique, elle est très compliquée. On est dans une situation aux Antilles avec à peu près 50% de chômage chez les 18-25 ans, donc des taux extrêmement élevés, plus de 20% de chômage sur l'ensemble de la population, enfin, on estime entre 20 et 30%. Une situation où les prix sont complètement repartis à la hausse depuis maintenant 4 ou 5 ans. Il y a de nouveau une inflation qui est complètement galopante. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est... par rapport aux biens de consommation courante, c'est entre 30 et 40% plus cher ce qu'on trouve dans les magasins antillais. Vous avez toujours environ 200 000 personnes qui dépendent directement des prestations sociales de l'État. Là, vous avez environ 200 000 allocataires de la CAF pour une population de 400 000 habitants. Voilà, le tableau global de la situation sociale et économique aux Antilles est quand même assez dramatique. Et puis, sur un plan politique, il y a une désorganisation assez totale, alors en espérant que ça ne se confirme pas dans les élections locales et intermédiaires, mais depuis quelques années, une extrême droite qui progresse, de façon assez surprenante, parce que c'était des territoires qui étaient, d'un point de vue électoral, plutôt préservés, mais où, dans un climat d'insécurité très très forte, il y a tout un tas de franges de la population. Alors, aussi, il faut le dire, hein, des métropolitains, style les gendarmes, les militaires, des gens qui sont qui ont assez facilement des sympathies pour le vote du Rassemblement national, mais aussi tout un tas de la population, une part significative, mais quand même de la population noire et métisse qui est tentée par des arguments réactionnaires, conservateurs, autoritaires, du style tout va à volo, il faut remettre de l'ordre, et donc le Rassemblement national, c'est peut-être pas si mal. C'est un tableau pas très très optimiste que je vous livre. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, c'est une des réalités sociales et politiques des Antilles aujourd'hui. C'est la cohabitation entre toute cette histoire et toutes ces traditions de lutte anticolonialiste et puis une situation sociale qui est quand même globalement délétère et dans laquelle sur laquelle la politique institutionnelle, j'ai l'impression, a de moins en moins de prise, quoi. Donc, voilà.
Oui, Guadeloupéens, c'est l'heure qui est arrivée pour nous mettre nous debout. Oui, debout contre toute profitation. LKP, vous versiez à nous.
Négocier pour négocier, une des lois qui j'ai votées.
Voilà, c'est la fin de cette émission de Libre Débat. Vous pouvez la réécouter en podcast et trouver toutes les références. C'était donc un enregistrement fait à la librairie Transit du sociologue Pierre Autin qui présentait son livre sur le mouvement contre la profitation. J'en profite pour annoncer qu'à la librairie Transit, et ben demain, il y a aussi, dans le cadre de Histoire-Mémoire, il y a de la biennale Histoire-Mémoire, il y a le stand-up de Samir Sadoun à 19h. Que le 29 novembre, il y a l'hommage à Jean Sénac avec Sid Hamid, Amouamer et Mehdi Nasser Khodja. De 19h à 21h et encore le 30 novembre de 17h à 19h la présentation et la lecture autour du livre Parmi les égarés avec Marc Ross. Donc je vous invite vraiment à aller à la librairie Transit et on se retrouve la semaine prochaine.
Il a capoté des dos, il pleut pour nous pour rigoler.